du prophète Agée, nous sommes arrivés au chapitre 2. Nous en lirons les 9 premiers versets. Au 7e mois, le 21e jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agée le prophète, disant: Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, disant: Qui est de reste parmi vous, qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Josua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Et soyez forts, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous, lorsque vous sortirez d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche, et j'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
Dans le dernier alinéa du premier chapitre, que le peuple a écouté les paroles d'Agée. Ils écoutèrent Zorobabel, Josué, ainsi que le peuple. Et ensuite il est dit que tout le peuple craignit Dieu. Et enfin, dernier verset, qu'ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Ils ont écouté, ils ont craint et ils ont travaillé. Il importe, chers amis, de ne pas renverser l'ordre de ces différentes dispositions morales et de cette activité du peuple. Il importe d'écouter d'abord, de craindre d'abord, avant de travailler. Il n'est pas possible d'accomplir un service fructueux dans un chemin d'indépendance, dans un chemin qui n'est pas celui de l'obéissance à la parole de Dieu. Écoutons cette parole. Craignons notre Dieu. Cette crainte dont nos frères des générations précédentes avaient un sens autrement plus aiguisé que nous-mêmes. C'est pas difficile de le dire et de le reconnaître. On craignait Dieu, on avait peur de déplaire au Seigneur. On avait constamment devant soi cette crainte qui lui était due. Eh bien, chers amis, que le Seigneur veuille la susciter à nouveau, cette crainte qui est due à son saint nom. Et alors, écoutant la parole et craignant le Seigneur, nous serons à même de venir dans les dispositions qui conviennent et de travailler et d'accomplir un travail fructueux à la gloire du Seigneur et concernant le bien de son assemblée. Ils travaillèrent, mais, chers amis, ils ont écouté, c'était une excellente chose, ils ont craint, c'était une excellente chose. Mais Est-ce que le simple fait d'écouter et de craindre pouvait suffire pour leur donner la capacité de travailler à la gloire du Seigneur? Il fallait donc des ressources. Il fallait les ressources divines, ces ressources inaltérables à travers tous les temps. Et c'est ce que nous avons au début de notre chapitre deuxième. Zorobabel et Josué sont encouragés. Ils sont invités à être forts. Notez qu'Agé ne dit pas « Vous, Zorobabel et Josué, soyez forts ». Non, il y a un encouragement direct pour l'un et pour l'autre. Sois fort, Zorobabel. Sois fort, Josué. Vous avez toutes les raisons de prendre courage, d'être fort, de vous fortifier. Vous avez toutes les raisons parce que vous avez toutes les ressources de la grâce de Dieu à votre disposition. Et quelles sont ces ressources? Premièrement, la présence du Seigneur assurée. « Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées ». Promesse qui avait déjà été énoncée au chapitre 1er. Ensuite, deuxième ressource, la parole, verset 5, avec laquelle, selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte. Troisième ressource, l'Esprit de Dieu. Eh bien, cette parole et mon esprit demeurent au milieu de vous. Et enfin, un encouragement magnifique, dont l'annonce d'un avenir glorieux, dont l'auteur et le centre serait personne d'autre que le Seigneur Jésus lui-même, appelé dans notre passage l'objet du désir de toutes les nations. L'objet du désir de toutes les nations viendra, il viendra, il entrera dans sa gloire. Ainsi donc, chers amis, ces ressources qui étaient celles du résidu de ces temps-là demeurent exactement les mêmes pour le croyant aujourd'hui. La présence du Seigneur, sa parole, son esprit et cet avenir glorieux qui est le nôtre et qui nous est parfaitement assuré par les révélations du Nouveau Testament. Nous avons toutes les raisons, en effet, et en dépit de toutes les défaillances actuelles, de prendre courage et de nous fortifier et d'être forts pour travailler à la maison de l'Éternel pour le bien de l'Assemblée, qui est chère au cœur du Seigneur.
Deux fois l'expression Dieu suit avec vous. Dans le verset 13 du premier chapitre et dans le chapitre 2, le verset 4. Et je crains dans la chrétienté la signification de ce premier message, Dieu suit avec vous, est mal compris. Si nous disons que c'est seulement un encouragement pour nos cœurs, nous manquons beaucoup de la force et de l'intimité de cette expression. C'est bien remarquable que quand le Seigneur dit « Je suis avec vous », il n'y a pas encore un seul arbre coupé, une seule pierre portée à la maison de l'Éternel. En quoi est-ce que le Seigneur est avec son peuple à ce moment? Ah, il est avec son peuple dans ce mouvement de leur conscience. Notre frère a lu dans ce verset 12, le peuple craignit l'Éternel. Et c'est si tout pour notre cœur, chers frères et sœurs, que dans ce commencement, dans ce crainte de Dieu,
dans ce tremblement du cœur devant la parole de Dieu, directement, spontanément, le Seigneur s'ajoute à ce mouvement et il dit, je suis avec vous. Pas je suis avec vous dans le travail que vous allez commencer, mais je suis avec vous dans ce mouvement de cœur. Car c'est un mouvement de cœur qui est là, dirigé par le Saint-Esprit. Et à tout mouvement du Saint-Esprit, si faible que ce soit, si dans le début, le Seigneur rajoute. Nous avons dans le prophète de Zacharie, dans le verset 8, ce mot intéressant, je vis de nuit, et voici un homme monté sur un cheval roux, et il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans le fond. Il n'avait pas le commandement de se tenir là, parmi ces myrtes, mais il se tenait par la volonté propre de son cœur. Il aimait ce peuple, ces myrtes qui étaient dans le fond. Et là, il se tenait. Là allaient les inclinations, les mouvements, l'amour de son cœur. Et je pense à un rapport avec cela, à ce que nous trouvons, ces mots bien connus dans l'évangile de Matthieu 3. Matthieu 3, nous trouvons dans le 5e verset. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortirent vers lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Voilà un peuple abattu. Humblé devant le Seigneur, tremblant devant le Seigneur et devant les conséquences de leurs péchés, qui se fait baptiser et qui confesse ses péchés. Et alors, le mot remarquable dans le verset 13, alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès des gens pour être baptisé par lui, car son cœur se tirait spontanément à cette opération de l'Esprit Saint, et il se voulait joindre à ce résidu humble, ce résidu faible, ce résidu confessant ses péchés. Et encore, nous trouvons dans le cantique des cantiques une expression en rapport avec cela. Dans le cantique des cantiques, le chapitre 6, l'époux dit dans le verset 11, « Je suis descendu au jardin des noisettes. » Pourquoi? Pour quelle raison? Pour faire de grandes choses? Pour faire de grands travaux? Non. Il est descendu pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Et alors il vient là dans la vigne, et alors ce mot de son cœur, si doux, si plein de signifiance, sans que je m'en aperçusse, mon âme a transporté sur les chairs de mon peuple de franche volonté. Il ne cherchait pas un peuple de grande activité, mais son cœur s'est mis sur cette a transporté sur les chairs d'un peuple de France volonté. Et comme c'est réconfortant pour nous tous. Nous sommes humblés. Nous tremblons si notre condition est bien. Devant le Seigneur, quand nous lisons ces mots du prophète Daguet. Et que le Seigneur nous accorde de retourner à nos maisons et de retourner à nos assemblées et de mettre en pratique cette admonition. Mes chers frères et sœurs,
le Seigneur ne tarde pas de se joindre à nous jusqu'au moment où nous avons fini le travail, où nous avons commencé dans notre maison, dans notre assemblée, de travailler. Quand il fera le travail du Saint-Esprit, maintenant, dans nos réunions, le travail du Saint-Esprit, il le dit à ce moment, je suis avec toi. Et quand nous retournons demain soir, dans nos trains, dans nos autos, à nos pays, à nos assemblées, à nos maisons, nous n'avons pas à attendre et de commencer ce travail. Mais le Seigneur le dit, quand il va, le travail de l'Esprit Saint dans nos cœurs, et quand il nous va briser sous sa parole, je suis avec toi.
De ce message par la parole de l'Éternel qui vint par Agée le prophète pouvait paraître teinté de mélancolie et de regret et correspondre aux dispositions de ceux qui, dans le jour où ont posé les fondements du peuple, pleurait. Qui de vous, dit-il, est de reste parmi vous qui ait vu cette maison dans sa première gloire, et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Il y en avait, sans doute, qui remontaient de captivité, pouvaient, allant aussi loin que possible dans leurs souvenirs, évoquer le temple de Jérusalem. Et ce qui se fondait, ce qui commence à être bâti par un peuple faible, opprimé, qui menaçait d'être arrêté dans sa construction, n'est-ce pas, dit-il, comme rien à vos yeux? Qui de vous reste parmi vous qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Comment ne pas s'affliger? Seulement, il y a là deux mots sur lesquels il faut que nous arrêtions notre pensée parce qu'ils comportent l'élément consolant qui perce dès l'entrée de cet autre message, de ce troisième message. C'est cette maison. Comme nous l'avons vu souvent souligné, c'est ma maison, c'est la maison de Dieu, comme aussi cela a été contenu dans l'ordre de mission qu'avait reçu Zorobabel. Il allait pour bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Il s'était imposé, l'Esprit de Dieu avait réveillé le cœur de Cyrus, comme il réveille ensuite l'esprit de Darius, et ils étaient tous dans une même pensée. Il y avait à Jérusalem une maison, et cette maison, c'est la maison de Dieu, qu'il a vue dans sa première gloire, cette maison. C'est la même maison, c'est le même lieu où Dieu voulait faire habiter son nom. Cette maison, c'était la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Et si piètre que fussent les ressources à mettre en œuvre, si réduit que fussent ceux qui allaient s'y employer, si réduit en nombre, si réduit en force, la grâce de Dieu était là et les encourageait en leur disant, c'est à cette maison qui est la mienne que vous allez ensemble travailler. Et alors, l'exhortation, l'encouragement, la force même est communiquée dès le moment où ils ont reconnu qu'en effet, petit est leur nombre, petites sont leurs ressources, petit est leur courage. Il a suffi d'une opposition ouverte pour que, sans attendre la décision du roi, on arrête le travail. Mais aussitôt après, quelque chose qui nous rappelle ce que l'apôtre écrit à son enfant Timothée. Sois fort, Zorobabel, et sois fort, Josué, fils de Josadac, grand sacrificateur, et soyez fort, vous, tous les hommes du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Quelque chose, je le répète, que nous retrouvons pour notre encouragement, pour notre consolation, dans le testament de l'apôtre Paul à son enfant Timothée. Commence par dire au premier chapitre, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Et puis dans le bon chapitre, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Pourtant, l'épître se termine par l'expression qu'on pourrait dire douloureuse du cœur du serviteur, voyant comment l'adversaire, l'ennemi s'acharnait après cette maison. Comme un sage architecte, il en avait posé le fondement. Ce fondement, c'était Jésus-Christ. Le mauvais ouvrier était venu et avait fait du mauvais ouvrage. Et il savait que tout ce qui était confié à la responsabilité de l'homme était voué à dépérir entre des mains vite lassées. Mais, ayant présenté à son enfant Timothée les mêmes ressources qui, ici, ont déjà été soulignées, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance et d'amour et de conseil. Et aussitôt il s'élève, c'est magnifique, dans le cœur de ce premier chapitre, il s'élève jusque aux ressources divines dès avant les temps des siècles. La grâce nous a été donnée dans le Christ Jésus. Et ainsi, maintenant, ayant rappelé à celui qui, semble-t-il, comme caractère, était susceptible de se laisser vite effrayer, que personne ne méprise ta jeunesse, il lui dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Eh bien, le même esprit qui soutenait l'apôtre, qui le remplissait de ferveur et d'activité, le même esprit de puissance et d'amour et de conseil, était à la disposition de Timothée, il habitait en Timothée comme il habitait encore dans l'Église. Et c'est ce même esprit, chers amis chrétiens, qui, par la grâce infinie du Seigneur, est en nous. Privilège que n'avaient pas connu les saints de l'Ancien Testament. C'est ce même esprit qui est dans l'Assemblée. C'est ce même esprit qui sera avec nous jusqu'au terme du voyage. Le même esprit qui maintenant prend de ce qui est à Christ et nous le communique, dans lequel nous avons à nous fortifier, par lequel nous avons à nous fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Le rappel du passé était douloureux à leur cœur. Cette première gloire de la maison, elle s'en était allée. C'est ce que nous trouvons dans le prophète Ézéchiel. Avec regret, elle avait quitté ce qui était l'habitation de sa demeure. Elle s'était tenue sur le seuil de la porte de la maison. Puis elle était allée sur la porte de l'Orient. Et puis enfin, il l'avait vue prendre son essor, quitter sa maison. Mais cette même gloire était promise à tout travail fait pour le Seigneur comme étant le couronnement de son œuvre à lui. Et ainsi, l'exhortation, l'encouragement, la consolation pour eux se résumait en ceci. Soyez forts, dit le Seigneur. Travailler la dernière gloire de cette maison, sera plus grande que la première. Et comme on l'a dit, c'est l'annonce de celui qui est l'objet du désir de toutes les nations. Le désir de toutes les nations, c'est une vision précieuse, consolante, tellement encourageante. Accordée à ceux qui, résidus faibles et méprisés, entourés d'adversaires, vite découragés, étaient pourtant conviés à travailler à la maison de Dieu. Le Dieu, mes chers amis, nous la transposition dans nos circonstances actuelles où elle se fait sans effort et à notre humiliation. Qu'en est-il du témoignage que nous disons être le témoignage du Seigneur parce que nous savons qu'il en est ainsi, mais que nous désirons retenir par la force que Dieu donne. À nous la confusion de face, disait Daniel, comme il paraît aujourd'hui. Mais l'espérance qui est ici proposée au cœur de ceux qui reprenaient l'ouvrage, craignant, ayant écouté, craignant et encouragé par la présence du Seigneur, au milieu d'eux, la même espérance, l'espérance glorieuse, celle qui est l'attente, qui fait l'attente constante de l'Église. C'est le retour de celui que déjà nous contemplons dans la gloire, lui qui remplit de sa gloire la maison de Dieu.
Le Seigneur ici vient tout devant des pensées qu'il connaissait fort bien dans le cœur de ce peuple qu'il aimait et qui n'était pas dans une condition brillante. Les Juifs, regardant autour d'eux, n'auraient pas eu beaucoup de raisons d'avoir de l'énergie, du courage. Ils avaient toutes les raisons pour être découragés. Le Saint-Esprit ici va au-devant d'eux et il ne craint pas comme étant celui qu'aucune situation n'embarrasse.
De déclarer à haute voix, pour ainsi dire, ce qu'ils lisaient dans leur cœur. Je le vois bien.
Vous sentez la différence qu'il y a entre les jours de David et de Salomon et les jours présents. Et je le vois bien, vous vous dites dans votre fort intérieur qu'il est inutile d'entreprendre une tâche pour laquelle nous n'avons pas tous les matériaux sous la main. L'essentiel leur manquait en apparence. Il ne s'agissait pas de retrouver la gloire du temple, ni de retrouver cet objet essentiel que représentait l'arche. Et tout cela était essentiel dans la vie du peuple. Et ils auraient pu, et ils se disaient, à quoi bon, c'est inutile, cela n'en vaut pas la peine. Et le Seigneur ne craint pas de les conduire à cette comparaison, mais il les y conduit lui-même en étant avec eux et en leur faisant des promesses qui peuvent ranimer leur courage et leur faire sentir que la tâche vaut d'être entreprise et menée à bonne fin. Les pour nous reporter toujours à une période analogue à celle du siècle dernier, l'ennemi pouvait très bien souffler dans le cœur de ces chrétiens qui aimaient le Seigneur, à quoi bon vous donner cette tâche? Vous ne retrouverez pas le lustre, ou vous ne donnerez pas à l'Église le lustre
qu'elle avait au premier jour. Eh bien, ses chers serviteurs le savaient. Le Seigneur leur faisait sentir. Ils savaient fort bien qu'il ne s'agissait pas de retrouver l'Église brillante des premiers jours. Et brillante de quelle manière? D'abord, et bien au-dessus de tout, dans la puissance extraordinaire qui s'était manifestée dans son sein, et par laquelle puissance s'était accompli le plus grand de tous les miracles, si l'on peut dire, la disparition de l'égoïsme. Ils étaient un cœur et une âme. Ils n'avaient rien, ils possédaient tout en commun. Les conflits nés du jeu des égoïsmes et des intérêts et de la vanité, ces conflits avaient disparu. L'Église était belle, très belle. Elle était belle aux yeux de celui qui se l'était acquise. Il n'y avait pas de cœur partagé et personne ne frustrait le Seigneur de sa gloire. Personne ne cherchait à détourner vers lui le cœur qui appartient tout entier à Christ. Il y avait une unité pour rendre au Seigneur, et autant dans l'attitude et le comportement général, l'hommage et la reconnaissance qui lui sont aujourd'hui. Nos devanciers, et nous, dans notre petite mesure, nous le savons, cela ne se retrouvera pas. Et non plus, en allant un peu plus loin, ou pas tellement plus loin, les ornements que le Seigneur donnait à son Église et qui étaient des signes de puissance extérieure, les miracles et les dons et les langues dont nous savons assez que ceux qui se sont occupés de l'Église en plus d'un milieu chrétien ont voulu parer à nouveau l'Église, eh bien, ceux que le Seigneur avait instruits savaient très bien qu'il ne s'agissait pas pour ce témoignage qui n'essaie de retrouver la splendeur morale de l'Église. Cette splendeur qui brillait dans l'humilité et dans la séparation complète du monde et de son esprit. Ils le savaient bien, mais le Seigneur leur a donné cette force pour entreprendre une tâche dont le résultat peut paraître dérisoire en le comparant au premier jour de l'Église quand le Saint-Esprit n'était contristé par rien et que les cœurs étaient unis et unis pour la joie et la gloire de Christ. Eh bien, l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans les derniers jours n'est pas dérisoire du tout. Et ses serviteurs et nous, à notre tour, nous pouvons tout à fait expérimenter, comme ils l'ont fait, que ce qui reste est essentiel, malgré tout, que si le brillant du témoignage ne se retrouve pas, ce qui est essentiel pour le témoignage qu'il constitue et le maintient, le Saint-Esprit est toujours là. Et la parole est toujours là. Et ça a été un décret brillant du témoignage du siècle dernier de remettre en évidence ces deux bénédictions qui ne peuvent cesser, mais qu'on a perdu de vue bien souvent, la présence du Saint-Esprit et l'éternité, la pérennité de la parole de Dieu. Et Philadelphie a été cela. Et c'est cela qui a été Philadelphie. Le travail peut paraître très mince dans ses résultats, tu as peu de force, mais il a fallu toute la force du Seigneur, l'action du Saint-Esprit et de la parole pour produire un témoignage dont nous qui bénéficions du travail qui a été fait, nous rendons pas compte de la distance morale et spirituelle qui séparait ce pauvre et faible témoignage de ce qui n'était pas lui. que le Seigneur nous donne de ne jamais perdre de vue que c'est le Saint-Esprit qui est là. Et c'est lui qui fait tout, dans les réunions, dans notre vie à chacun. Quand nous lisons l'Écriture, ne pensons pas, n'est-ce pas, que c'est un effort mental soutenu qui nous permet de sonder les Écritures, rien du tout. Dieu n'a pas besoin du labeur de l'homme, même sur ce point-là. Le Saint-Esprit seul ouvre les Écritures. Le Saint-Esprit seul engrave la vérité dans la conscience et dans le cœur. Le Saint-Esprit seul produit l'intelligence, la paix, la joie, la force. C'est qu'un chrétien de nos jours pourrait aller jusqu'au martyr, dans ces tristes jours de ruine, aller jusqu'au martyr à la gloire du Seigneur. Que sans parler de cela, il peut réaliser quelque chose de plus difficile encore, faire une carrière dans le secret, dans l'obéissance du Seigneur et la dépendance de lui-même. C'est peut-être plus difficile que de monter sur un mur, parce que c'est l'affaire d'une vie. Et nous sommes appelés à cela. Et l'Église et le témoignage est appelé à cela. L'éviction, n'est-ce pas, de l'homme, du premier Adam, du saint de l'Église, du Seigneur et du témoignage du Seigneur, est ce que nous avons à rechercher constamment. Cette mise du côté du premier Adam, du moi, en chacun de nous, au milieu de nous, dans les régions, de toute manière. C'est cela qui montre que le Seigneur est cher. Quand on ne cherche que lui et que l'on proclame ainsi que lui seul a, est digne d'être aimé, lui seul compte. Ce témoignage des derniers jours par la puissance de l'Esprit a rappelé que Dieu, par l'heure de la croix, non seulement a ouvert le ciel aux croyants, mais bien mieux que cela en un sens, il a libéré le croyant de lui-même, miracle. Merveille, n'est-ce pas, en ensevelissant le croyant dans la mort en Christ. C'est un des traits, c'est une des vérités distinctives du témoignage vrai, cela, que l'homme est condamné à mort et qu'un chrétien ne reconnaît le vieil Adam qu'il a en lui, ne le reconnaît comme un homme entièrement condamné et qui n'a jamais le droit même de montrer le bout de l'oreille. Jamais. Dieu ne le reconnaît pas, et le fidèle non plus, même s'il a des écarts, et si ce vieil homme le surprend, moralement, le chrétien fidèle reconnaît qu'il a mal fait de se laisser surprendre. C'est cela le témoignage, n'est-ce pas? La condamnation du premier Adam, l'exaltation du dernier Adam, du second homme auquel nous sommes liés. C'est une gloire qui ne passe jamais, et c'est ce que produit le Saint-Esprit et la parole, et avant, n'est-ce pas, que l'Église soit manifestée en gloire, la gloire du Seigneur devrait briller dans chaque rassemblement local, des personnes venant du dehors, entrant dans les réunions qui nous est accordé de réaliser, pourraient trouver un lieu où l'on a à cœur de donner non pas gloire aux frères, à un frère, à tous les frères, de donner gloire au Seigneur seul, tous les frères étant unanimes pour se prosterner dans l'humiliation en confessant que par nature, ils ne sont pas seulement rien, mais ils sont des êtres que Dieu a condamnés et condamnés en Christ. Et c'est à la gloire du Seigneur qui n'est pas seulement mort pour porter nos péchés en son corps sur le bois, mais pour que nous bénéficions de sa mort, qui est la nôtre, et de sa résurrection dans une nouvelle condition, qui est la nôtre. Et nous sommes liés à ce Christ glorieux, c'est ce que nous oublions souvent. C'était une des vérités que le témoignage, et on est surpris de voir l'insistance avec laquelle nos conducteurs reviennent sans cesse, sur ces vérités de base. Le premier Adam réduit à rien à la mort, chacun devant être conscient de cela comme d'une vérité vivante et efficace, et le chrétien uni à un Christ céleste nous découle par la parole et par le Saint-Esprit toutes les ressources pour un témoignage que le Seigneur veut bien produire et dont nous désirons qu'il veuille bien le maintenir jusqu'à la fin. J'ajoute un mot. Ils ont dit, nos frères, que si les frères commencent à s'occuper d'eux-mêmes, ils frustrent Christ de sa gloire. Ils n'ont pas à être occupés d'eux-mêmes, en aucune manière. Mais si les frères ne sont pas fidèles, eh bien le Seigneur en appelle d'autres. Il en appelle d'autres. Voilà ce qui peut arriver, car il se maintiendra un témoignage en dépit de tout et de tous. Montrons-lui que nous l'aimons en montrant au milieu de nous la puissance de la parole par le Saint-Esprit. En dehors de cela, où y a-t-il de la puissance? Nulle part. L'énergie d'un chrétien n'est qu'un piège pour ce chrétien s'il n'est pas dépendant du Seigneur. Que le Seigneur nous soit ma parole et ton esprit demeurent au milieu de nous. Et le Seigneur aimerait que sa gloire morale brille dans les rassemblements des saints avant que sa gloire remplisse cette assemblée qu'il s'est acquise.
C'est des ressources de la grâce de Dieu dont on vient de parler et donc exprimées par ce verbe demeurer. Ma parole et mon esprit demeurent au milieu de vous. Et cette même parole et ce même esprit demeurent au milieu de nous et ils demeureront jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tout à l'heure, notre frère nous a parlé de la deuxième épître à Timothée, cette dernière épître de l'apôtre Paul, cette épître qui a été écrite pour des jours fâcheux et mauvais. Cette épître qui a été appelée l'épître de nos ressources. Nos ressources. Elles sont particulièrement démontrées dans cette dernière épître de l'apôtre Paul. Et notre frère nous en a parlé, nous a parlé de plusieurs de ces ressources en faisant allusion au chapitre 1er et au début du chapitre 2e. La parole est donc l'une de ces ressources, et il est significatif qu'elle soit mentionnée d'une façon très incisive dans chacun des quatre chapitres qui constituent cet épître. Au premier chapitre, comment est-ce qu'elle est appelée, la parole de Dieu? Elle est appelée les saintes paroles, dont nous devons avoir un modèle, comme un exposé, une copie. Au chapitre 2e, c'est la parole de la vérité, et nous sommes exhortés à l'exposer justement, à la découper droit. Dans le chapitre 3e, c'est ma doctrine, l'ensemble des révélations confiées par le Seigneur à son serviteur. Tu as pleinement compris ma doctrine. L'apôtre parle de 10 choses, de ses souffrances, de sa patience, de ses persécutions, etc. La première chose mentionnée, c'est la doctrine. Ma doctrine, que tu as pleinement compris. Et c'est à la fin de ce chapitre qu'on a ce passage de base. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, etc. Et enfin, au chapitre 4e, nous avons le saint enseignement. Le saint enseignement que l'on ne supportera plus. Les saintes paroles, la parole de la vérité, la doctrine et le saint enseignement. N'est-ce pas là une ressource d'une extrême importance, la parole de Dieu pour les temps fâcheux, les temps mauvais, tels que ceux qui sont prévus et pressentis par l'apôtre dans cette deuxième épître. Voilà donc la parole. Il y a l'esprit, mon esprit demeure au milieu de vous. Et à ce sujet, j'aimerais demander que l'on ouvre chacun sa Bible, pour lire deux passages où nous voyons déjà dans l'Ancien Testament la parole et l'Esprit intimement unis, associés. Le premier passage est dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er. Au livre des Proverbes, au chapitre 1er, le verset 23e, c'est un appel de la sagesse à revenir, à écouter précisément la répréhension. Verset 23 du premier chapitre du livre des Proverbes. Revenez à ma répréhension. Voici, je ferai couler pour vous mon esprit, je vous ferai savoir mes paroles. Déjà, peut-être d'une manière vague, mais déjà cette pensée de l'esprit de la sagesse, des paroles de la sagesse intimement associées et qui seront la ressource assurée pour celui qui voudra bien revenir et écouter la parole de répréhension de la sagesse. Le deuxième passage dans le livre du prophète Ésaïe. Au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59e, le dernier verset, verset 21 d'Ésaïe 59. Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Quelle ressource, chers amis, de nouveau, l'Esprit de l'Éternel et la parole de l'Éternel, et qui est assurée pas seulement aux prophètes, mais qui est assurée pas seulement à une génération, mais encore à une génération qui viendra, et encore à une autre génération qui viendra. Et puis, dès maintenant et à toujours, n'avons-nous pas la notion, là, déjà dans l'Ancien Testament, de cette pérennité dont nous venons d'entendre parler, de cette permanence des ressources infaillibles de la grâce de Dieu, sa parole et son esprit. Et n'y a-t-il pas un encouragement pour nous, chers amis, un encouragement tout pratique, en pensant à nos familles, en pensant à nos enfants, à nos petits-enfants? Est-ce qu'il n'y a pas là une promesse d'un encouragement exceptionnel? Mais cette parole et cet esprit dont nos anciens frères, nos ancêtres ont joui, nous en jouissons maintenant, c'est la preuve de la réalité d'une telle promesse. Et si le Seigneur devait patienter encore pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais quelle promesse merveilleuse concernant la pérennité, la permanence de la parole et de l'Esprit de Dieu. Et cela indépendamment de nos faiblesses, de nos défaillances, nous pouvons gémir, nous avons raison, et très raison, bien entendu, de nous humilier, mais nous pourrions gémir. Tout cela, toutes nos faiblesses et nos défaillances, ne portent nullement atteinte à l'intégrité, à l'invariabilité, à la pérennité des ressources de Dieu. Un dernier passage en rapport avec ces ressources invariables de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur se présente à l'Église qui est à Sardes? Comment? Apocalypse 3, verset 1er. Qu'est-ce qu'il doit être dit de Sardes? Tu as le nom de vie, mais tu es mort. Tu es mort. Oh, est-ce qu'il y a une faiblesse plus grande que celle-là? Tu es mort. Voilà. Voilà ce que tu es, Sardes. Est-ce que cet état de misère totale a porté ou porte atteinte en quoi que ce soit aux ressources de la grâce de Dieu? Mais non, le Seigneur se présente non seulement comme celui qui a l'Esprit de Dieu, mais qui a cet Esprit de Dieu. Il demeure toujours au travers de tous les temps, celui qui a les sept esprits de Dieu, qui a la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Et cela dans un temps qui est défini par ces mots, tu as le nom de vie et tu es mort. Les ressources de Dieu sont inaltérables, oui, ma parole et mon esprit demeurent au milieu de vous, et que notre foi puisse s'attacher d'une façon plus réelle, plus vivante et plus fervente à cette assurance que la grâce et les ressources de la grâce ne varient pas et ne varieront jamais jusqu'à ce que le Seigneur vienne.
Nous trouvons cette expression, encore une fois, ce sera dans peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre. Dieu ébranlera les cieux et la terre pour mettre ordre dans toutes choses ici sur la terre. La base de son gouvernement est mise sur la croix, nous le savons. Mais la réalisation de l'ordre du gouvernement de toutes choses sera en ce moment quand le Seigneur viendra et que tous ici, sur la terre et dans le jeu, sera ébranlé. Pourquoi ébranlé? Pour mettre ordre en toutes choses. Ébranlé seront les peuples pour mettre ordre dans la situation des peuples autour de Palestine. Ébranlé seront les choses dans le ciel. Et, chers amis, notre frère nous a dit, nous a parlé du témoignage des frères de l'ère passée. Et je le trouve si remarquable que ces frères n'ont jamais tâché de mettre ordre ici sur la terre dans les choses. Et ils savaient ce que maintenant est là dans la chrétienté, c'est inconnu, que c'est impossible de mettre ordre ici sur la terre, d'ébranler la terre aussi long que les choses dans le ciel même ne sont pas réglées. Et c'est si beau que, mais ici nous trouvons premièrement ébranler les cieux et après cela ébranler la terre. Et encore un mot pour les jeunes, pour ceux qui sont dans leurs études, qui ont leurs camarades et qui sont en connexion avec leurs pensées, avec la pensée du politique chrétien, comme on le appelle. Et on sait que les partis chrétiens, comme on les appelle, peuvent mettre ordre dans les choses ici sur la terre. Mais sois averti, jeune croyant, n'incline jamais ton oreille à de telles impressions. Il ne sera pas l'ordre ici sur la terre. Et le Seigneur ne nous appelle pas, n'appelle pas son témoignage de mettre ordre ici sur la terre. Lui-même ébranlerait les cieux et la terre dans son temps, à son apparition.
Marquez la différence, une différence entre Israël et l'Église. L'Église n'a rien à faire avec la terre, sauf faire briller, pendant l'absence de son époux, les gloires et les grâces divines. Il lui a été promis que la souffrance, il a été promis au saint que la croix. La souffrance, la réalisation de la mort à tout ce que le monde aime, n'est-ce pas? L'Église a une origine, on peut dire céleste, des destinées célestes. Elle brillera devant le monde pendant le règne avec Christ, mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Tandis qu'Israël sera le centre du monde et de la bénédiction du monde, Israël tout entier, avec le Messie ayant occupant sa place d'autorité, Jérusalem sera la capitale du monde, mais Zébri sera la capitale, la Jérusalem céleste, la capitale du ciel. Et elle ne cessera jamais d'être la capitale du ciel. De sorte que, pour être gardé des tentations de faire de l'évangile ou du christianisme mondain, la meilleure manière, c'est de comprendre la vraie portée du christianisme. Un chrétien est un être céleste. Il n'est lié à la terre que par son corps, ses activités, son témoignage, mais les sources de sa vie sont entièrement célestes et ses bénédictions aussi. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La politique du chrétien, il a donné son vote à Christ une fois pour toutes et on n'en parle plus. Son seul devoir est d'être reconnaître les autorités. Il devrait manifester au milieu du monde les choses célestes, une vie de caractère céleste. Comment cela se montre-t-il pratiquement? La sainteté. Et une sainteté qui ne se contente pas de fuir les mauvais lieux. Pas une sainteté et une justice qui vont jusqu'au souci de ne pas nourrir dans son cœur de la vanité, l'orgueil, la satisfaction de soi. La satisfaction de soi est une souillure, c'est un péché, c'est quelque chose pour quoi Christ a dû mourir, n'est-ce pas? Et tout le monde, nous sommes tous portés vers ça. Et ce qui est insupportable pour un inconverti l'est encore beaucoup plus chez un chrétien. Et nous avons tous des écarts, mais demandons au Seigneur de juger même une pensée, n'est-ce pas? Je suis toujours frappé en lisant nos conducteurs, en lisant leurs correspondants, là où ils ouvrent leur cœur et disent quelque chose de leurs expériences, ce qui est à un certain égard plus important que lorsqu'ils parlent en docteur. Comme on voit d'ailleurs Paul aussi. Paul ne nous intéresse pas seulement comme apôtre ou comme docteur révélateur. Il nous intéresse à certains égards beaucoup plus comme homme. On voit un homme qui regardait de très près, se surveillait de très près, n'est-ce pas? Et il portait sur lui-même un jugement impitoyable. C'était un homme libre, libre. Nous devrions montrer ce que c'est que la vraie liberté. N'avoir pas de chaîne. Et les chaînes les plus fortes sont celles qui viennent du fait que le moi n'est pas assujetti, que le moi fait des siennes. Voilà la sainteté du chrétien, ce que nous devrions montrer. Nous devrions manifester aux yeux des hommes, n'est-ce pas, cela, cette sainteté pratique, une humilité qui n'est pas de surface, un souci constant de la justice vis-à-vis des hommes. Et l'amour, car la vie n'est pas que négative, elle est active. Christ a été actif en amour. L'apôtre a été actif en amour. Il a dépensé sa vie pour les autres, même pour les inconvertis et pour les chrétiens. Il savait très bien d'avance qu'il ne serait pas payé de ses peines comme il pourrait s'y attendre. La récompense est pour plus tard. Et la récompense était déjà au moment même par l'approbation de son maître. Cela doit nous suffire, n'est-ce pas? Doit nous suffire. Chrétien devrait manifester au milieu des hommes et au milieu des saints qu'il est quelqu'un qui a une source secrète de contentement qui échappe aux autres, l'approbation de Christ. Lorsque nous avons cela, chers amis, nous ne demandons rien d'autre. Rien d'autre. Cela nous permettrait même d'affronter l'ingratitude des frères et de repoussion. À moins que nous ayons péché pour motiver cette ingratitude. Mais si ce n'est pas le cas, la présence du Seigneur peut en vérité nous permettre de tout surmonter sans que la chair se montre. L'Église doit manifester les perfections du second homme, du dernier Adam. Et dans ses membres, on ne devrait pas voir les caractères du premier Adam. C'est beaucoup dire. Et en vérité, c'est tout. Et on ne peut pas faire de service tant qu'on ne commence pas par cela. Et qu'on ne continue pas par cela. Que le Seigneur nous aide à réaliser cela, il faut sa parole et son esprit pour cela. Ah oui. Et si certains se lamentent de ce que les miracles ont disparu de la scène, eh bien nous pouvons dire que lorsque un chrétien soutenu par le Seigneur, apprends à soulever, apprends à être humble, apprends à se mettre de côté, c'est un miracle plus grand que de calmer une mer tout entière, calmer un océan entier, c'est un miracle beaucoup plus grand. Calmer un cœur troublé, apaiser un cœur, apaiser une conscience, donner, avoir la paix, avoir la force que la paix donne, c'est ce genre de force, n'est-ce pas, de force morale qui est divine, eh bien, c'est un miracle plus grand que tous les miracles matériels que l'on pourrait chercher à faire. Ma parole et mon esprit demeurent avec nous, qu'il nous soit donné de ne pas l'oublier. On a dit qu'un grand péché de l'Église des derniers jours, c'est de maîtriser la présence du Saint-Esprit. Comment le fait-elle? Elle le fait lorsqu'elle supplée à ce qu'elle suppose être une insuffisance du Saint-Esprit par ses activités, ses initiatives, son énergie, ses entreprises. Que le Seigneur nous accorde de nous appuyer sur sa parole et sur son esprit, chacun individuellement. Mais cela, c'est une affaire de tous les jours.
Quelques minutes, et que Dieu nous accorde, mes chers amis, en soulignant cette expression, le désir de toutes les nations viendra. L'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire. Effectivement, cela va se réaliser. Quand le temple du millénium est bâti selon ses dimensions, ses dispositions qu'on trouve dans la fin du prophète Ézéchiel, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a une porte qui doit être fermée. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel est rentrée par elle. La maison est sanctifiée parce que la gloire de Dieu est là. Elle sera vue par toutes les nations, l'objet du désir de toutes les nations. Maintenant, elles désirent tout autre chose, leur grandeur propre, leur prospérité, leur prééminence. Mais le moment va venir, et c'est une pensée si douce pour nous, que les nations qui vont entrer par la grâce du Seigneur dans les joies du millénium le désireront. Mais ils le verront comme celui qu'ils ont percé, et l'hommage lui sera rendu de la part de tous ceux qui se prosterneront devant lui. Mais, mes chers amis, si alors l'Esprit répandu sur toute chair, selon l'expression de Joël, si alors l'Esprit procurera au cœur cette espérance et orientera les pensées vers lui, de quoi nous parle maintenant l'esprit qui est en nous, qui prend des choses de Christ et qui nous les communique, qui fait que déjà, par ce même esprit, nous le voyons dans sa gloire et que nous devançons le moment de sa venue avant sa bienheureuse apparition? Eh bien, il nous faut aller à la fin du livre de l'Apocalypse. Là, nous trouvons l'Esprit du Seigneur orientant les cœurs de l'Église tout entière, comme cela aura lieu dans le moment même où Jésus viendra pour enlever les siens, nous ne pouvons pas en douter. Le même Esprit opérera pour que, ne serait-ce qu'un court moment, l'Église tout entière soit rendue attentive à ce fait, le Seigneur vient. Alors, nous l'entendrons dire à celui qui s'est présenté à nous comme Jésus, l'étoile brillante du matin. Nous l'entendrons dire lui-même, viens, et avec lui, avec l'Esprit, et par l'Esprit, nous aussi nous dirons « Viens ». Plus que l'objet du désir de toutes les nations, celui qui veut posséder le cœur de l'Église, posséder l'Église toute entière, de telle sorte que cette merveille, ce mystère qui est si grand, puisse avoir sa pleine réalisation quand il nous introduira dans la maison de son Père. Alors ce même esprit opérera pour que nous soyons ne serait-ce qu'un moment d'un seul cœur et d'une seule âme pour dire par l'esprit et avec l'esprit « Viens ». Objet béni d'une longue espérance, ce qui a soutenu le cœur de tous les croyants dans tous les temps, la promesse de son retour, si faiblement qu'on les saisit, et nous dirions si maladroitement qu'on l'ait interprété. Pourtant, alors, et d'une manière conforme à la pensée même du Seigneur, nous dirons, il est là, il vient. Le cri de minuit a retenti. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Et nous attendons son propre cri à lui, le cri du commandement, quand il ressuscitera par sa puissance ceux qui nous ont devancés et qui eux aussi font partie de l'Église, en même temps qu'il ressuscitera par sa propre puissance ceux qui, avant la croix, avaient reçu des acomptes sur l'œuvre de la croix et qui seront alors les amis de l'époux. Plus rien ne restera dans la mort de tout ce en quoi la vie du Christ a habité. Et tous ensemble, entendant cet ultime rappel, dans le moment même où nous lui aurons dit « Viens !» Oui, je viens bientôt, cet ultime rappel de sa promesse. Ensemble, nous nous prosternerons et dans nos cœurs, nous l'adorerons, reconnaissant sa seigneurie, mais heureux de voir paraître. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que Dieu nous prépare pour ce moment. Pour faire frère avec toujours, dans quelque position que ce soit, de quelque vérité de la parole que ce soit, un moment, une expression, ne serait-ce qu'une phrase, pour nous dire « il vient ». Cela a caractérisé aussi le témoignage du Seigneur que nous désirons retenir. Cette promesse, perdue de vue si longtemps, le désir de son cœur enfin satisfait, et sa personne glorieuse nous dit unissant à lui, dans le moment où il viendra pour transformer le corps de notre abaissement en la ressemblance du corps de sa gloire, en la ressemblance du corps de sa gloire. Oui, nous pouvons dire, par l'esprit et avec l'esprit, viens, et que ce soit, mes chers amis, sur cette parole d'espérance, de consolation, au travers de toutes les épreuves, de toutes les peines. Parole d'espérance, mais aussi parole de foi, puissions-nous lui dire, amen, viens, Seigneur Jésus.
Afin de cet alinéa de gloire, d'une gloire plus grande, et aussi d'une paix qui sera donnée, cette gloire et cette paix parfaite seront connues parce que sera venu précisément cet objet divin du désir de toutes les nations.